Atlantis par André Laurie. Chapitre 1er. Un officier à la mer. Le 19 octobre de cette année-là, un accident bizarre et tragique advint à bord du croiseur l'Hercule, en route pour l'Orient, après une longue et laborieuse station au golfe du Bénin. On était en pleine Atlantique, au-dessous des Açores, à peu près au point où le 25e de longitude est coupe le 36e de latitude nord. Le navire courait à toute vapeur au nord-nord-est devant un cyclone qui l'avait rejoint vers 6h du soir. Il en était 7 et la nuit sans étoiles ajoutait son horreur à celle de l'ouragan. Quand un faux coup de barre, à moins que ce ne fût une saute de vent, eut pour effet de présenter pendant un court instant le flanc du croiseur à la lame formidable qui arrivait de l'ouest. Une montagne liquide vint frapper de son marteau-pilon le tiers antérieur de l'Hercule, brisant tout, emportant tout sur son passage, jusqu'au canon barbette de tribord avec son affût, puis s'écoula en cataracte, laissant une surface de 30 mètres carrés rasée comme un ponton. L'instant d'après, le navire avait repris son allure et courait à nouveau devant le cyclone quand deux cris éclatèrent coup sur coup dans la hune. « Officier à la mer par tribord ! Un homme blessé !» Au premier appel, la bouée lumineuse, abattue d'un coup de hache, était tombée par tribord et le commandant Haraucourt, qui s'était précipité au porte-voix, donnait en personne l'ordre de stopper. En 2 minutes, un des canots de sauvetage était descendu et paré. Il partait à la découverte au milieu du tumulte des flots déchaînés et disparaissait dans la nuit. Puis, tandis que la recherche s'opérait sous le grondement sinistre des vents, sous les coups furieux de la mer comme enragée de l'allure ralentie du croiseur, l'officier de service apportait son rapport verbal au chef. L'officier enlevé par la lame avec le canon de tribord était l'aspirant caudal. L'homme blessé à la cuisse par un éclat de bordage était le gabier de 2e classe, Yvon Kermadec. Sur ces lugubres nouvelles, chacun attendit. Une demi-heure d'angoisse silencieuse s'écoula. Puis le canot de sauvetage signala son retour et l'inutilité de ses recherches. Il fut hissé à bord, et l'équipage ruisselant gratifié d'une ration de thé au rhum. Chacun dut, le cœur serré, s'avouer qu'il n'y avait plus rien à tenter. La mer tenait sa proie et ne la lâcherait point. L'Hercule reprit sa course avec le regret poignant chez tous ceux qui le montaient d'abandonner à l'abîme un homme jeune et brave, un officier d'avenir, tombé sans gloire et sans profit, en pleine santé, en pleine espérance, à l'heure la plus riante de la vie. René Caudal était le meilleur et le plus apprécié des camarades, le plus juste des chefs. Il n'y avait pas sur le croiseur si rude matelot qui ne lui donnât une larme. Quant à Yvon Kermadec, au moment où le commandant descendit à l'infirmerie pour le voir, il sortait d'un profond évanouissement grâce à l'énergique médication du docteur Patrice et montrait des yeux bleus effarés dans sa brune et honnête figure bretonne. Bientôt le souvenir lui revint avec la douleur. Il expliqua ce qui s'était passé. « J'étais adossé au mât de misaine. Monsieur Caudal allait et venait, comme surpris d'un changement dans la direction du vent, quand soudain la lame est arrivée droit sur nous. Jamais je n'ai rien vu de pareil, depuis 5 ans que j'ai quitté Paimpol, ni même avant, quand j'allais à la pêche de la morue. On aurait dit un mur de fonte liquide s'écroulant sur l'Hercule. » Tout était pilé, mis en miettes et emporté. Dans une sorte de vision confuse, je me suis rendu compte que M. Caudal, projeté comme collé contre la culasse du canon de tribord, était enlevé, balayé avec tout le reste. Au même instant, j'étais moi-même frappé comme un pavillon sur le mât auquel je me trouvais adossé, tandis qu'une énorme pièce de bois me broyait la jambe gauche. J'ai perdu connaissance. Mieux vaudrait sans doute que j'eusse succombé, reprit le pauvre garçon d'un ton découragé. À quoi bon survivre si ce doit être avec une jambe de moins ? Je ne serais plus bon à rien. Mieux vaudrait que j'eusse été pris par la mer à la place de Monsieur Caudal. Un officier comme lui, cela ne se voit pas tous les jours. L'accent du gabier était si sincère que le jeune docteur en fut profondément ému. Personne ne savait mieux que lui la perte irréparable que venait de faire la marine française en René Caudal. Il était son ami le plus intime et son compagnon depuis l'enfance. L'hommage rendu à celui qu'il considérait comme un frère le toucha à ce point que sa main en devint moins sûre et moins ferme. Il dut suspendre un instant le pansement minutieux auquel il se livrait. « Allons, allons, mon brave Kermadec, pas de faiblesse, » dit-il au gabier. « Ta jambe n'est pas perdue, tant s'en faut, et j'espère bien arriver à te la conserver. Mais il n'en serait pas ainsi que tu aurais sans moyen pour un de rendre ta vie utile et belle. Quant aux regrets que tu exprimes sur la fin prématurée de M. Caudal, certes, ils sont légitimes. Un plus brave cœur, un officier plus intelligent et plus distingué, un meilleur fils, il n'en fut jamais. Sa pauvre maman aura bien de la peine, » poursuivit le gabier en répondant à son insu à la pensée même du docteur Patrice. C'est ce qu'il y a de dur dans notre métier, quand on s'en va, de savoir le chagrin qu'on leur laisse, à ceux de là-bas qui vous attendent. Des fois, je me dis que ce n'est pas juste, et qu'il devrait y avoir entre les êtres qui s'aiment le pacte de mourir ensemble. Cher monsieur René, c'est lui qui m'avait fait comprendre la bêtise d'apporter notre argent au cabaret, comme nous faisions tous quand nous descendions à terre. J'étais content d'avoir perdu cette sotte habitude. Maintenant, qui me donnera un bon conseil? Qui s'intéressera à savoir si je marche droit? Savant comme il était, il ne dédaignait pas de causer avec moi, de m'apprendre un tas de choses. Il m'appelait l'ami Kermadec. Ah, tenez, je me serais 20 fois jeté au feu pour lui, et le voir emporté ainsi sous mes yeux, sans être capable de lever seulement un doigt pour l'aider. Le gabier s'arrêta, étranglé par le chagrin. Quant au jeune docteur, il n'était pas moins ému que le blessé, et, lui aussi, il resta un instant incapable d'articuler un mot. « Tu sais s'il m'était cher, mon brave Kermadec, » dit-il enfin. « Je tâcherai de le remplacer auprès de toi. Si jamais tu as besoin d'aide ou de conseils, si tu crois que je puisse t'être utile en quelque façon, viens à moi avec confiance. En souvenir de lui, je serai toujours heureux de te servir. » Le pansement était achevé. Le commandant Haraucourt et le docteur, après avoir serré cordialement la main du blessé, le quittèrent pour remonter sur le pont. Ils s'entretinrent quelques instants encore du déplorable événement qui venait de priver l'Hercule de son plus brillant officier, puis se séparèrent, l'un pour aller rédiger son rapport, l'autre pour regagner le carré. Là aussi, chacun attendait Patrice avec impatience. Tout jeune encore, mais savant autant que modeste, gai, obligeant, bon camarade, le docteur avait l'estime et l'affection de tous. La partie n'était jamais complète sans lui. Mais aujourd'hui, chacun avait à cœur de lui témoigner plus que l'ordinaire cordialité. On savait les liens de profonde tendresse qui l'unissaient à René Caudal. On écouta avec le plus ardent intérêt les détails qu'il venait de recueillir de la bouche de Kermadec, et aussi l'éloge naïf et sincère que le gabier venait de faire du mort. « Ce que vous nous dites augmente encore notre deuil, » dit le lieutenant Briand, un officier d'une 40aine d'années, aux gros yeux myopes et saillants, à la physionomie sérieuse et farouche. « Et pour mon compte, je ne puis exprimer toute la peine que me cause cette fin prématurée. « Brave et cher Caudal !» s'écria l'enseigne des Bruyères. « S'il était bon et secourable à plus petit que lui, il n'y avait pas non plus de meilleurs camarades. Où retrouverons-nous jamais cet esprit, cette gaieté, cette fantaisie qui animait notre table? Jamais il ne sera remplacé parmi nous. » Par une pente naturelle, la causerie se porta sur la famille de l'aspirant Caudal. Le docteur conta tout ce qui pouvait satisfaire la curiosité respectueuse de ses compagnons. « René, dit-il, était, vous le savez, fils et petit-fils de marin. Comme lui, son père et son grand-père ont eu la mer pour tombeau. Il était fils unique. Aussi la pauvre Madame Caudal avait-elle horreur de voir son enfant embrasser une profession si cruelle. Et de tout temps, elle avait pris à tâche de combattre chez lui le plus léger symptôme de vocation pour cette mère féroce à qui elle garde une rancune inguérissable. Les amis, les domestiques étaient avertis, les livres choisis avec soin, les images et les souvenirs nautiques systématiquement écartés. Vaine précaution. Autant aurait valu chercher à empêcher un poisson de nager. René était marin de naissance. Aucune éducation n'aurait su faire de lui autre chose qu'un marin. On ne pouvait éviter qu'il aperçût par échappée un coin de rivière, une silhouette fuyante de navire. Et ce qu'on ne lui disait pas, il le devinait. Aucun bateau n'avait jamais figuré parmi ses jouets. À 7 ans, on le trouva un jour occupé à s'en construire un. Où en avait-il puisé l'idée? Sans doute dans un atavisme confus. Toujours est-il qu'à dater de ce moment, il ne rêva plus que de voyages lointains, au désespoir muet de la pauvre mère, qui voyait naître et grandir sous ses yeux une force contre laquelle elle restait impuissante. Ce fut bien pis encore quand sa petite cousine Hélène vint demeurer avec eux. Fille d'une sœur du lieutenant caudal, Hélène avait été élevée par sa mère dans le culte de la profession navale et l'admiration la plus ardente pour les exploits maritimes. L'enfant était devenu subitement orpheline. Madame Caudal lui donna l'abri de son toit et, avec la venue de sa nièce, tombèrent les faibles barrières qu'elle essayait en vain d'élever entre René et une vocation irrésistible. Les deux enfants avaient à cette époque une douzaine d'années. Ils ne se connaissaient pas auparavant, la fillette ayant toujours vécu en Algérie. Mais du premier jour, ils furent amis. Ils avaient les mêmes goûts, les mêmes ambitions. Leurs entretiens roulaient toujours sur le même thème. Navigation lointaine, expédition au pôle Nord, bataille navale, découverte de terres inconnues. La mère regret d'Hélène de n'être qu'une fille se trouvait un peu adoucie maintenant, à la pensée de voir son rêve prendre corps par procuration. En attendant, on se préparait aux exploits futurs par les plus folles équipées. Nos navigateurs à venir se faisaient un devoir de ne pas laisser inexplorer le moindre recoin du charmant pays qu'ils habitaient au bord de la Loire. Nombreuses furent leurs aventures de terre et de mer. Il n'était presque point de jour où ils ne rapportassent au logis soit un front bossué, soit un membre plus ou moins endommagé et des vêtements en lambeaux. Il n'y avait plus désormais à vouloir pour René une autre carrière que celle de la marine. Madame Caudal, qui était juste autant que tendre mère, le reconnut enfin et, sacrifiant dès lors l'espoir longtemps nourri de garder son fils auprès d'elle, fit taire généreusement ses répugnances. Elle ouvrit aux enfants l'armoire longtemps fermée où elle gardait les reliques sacrées du père et du grand-père. À partir de ce moment, tout ce qui touchait à la marine fut pour eux une religion. Il n'était plus question maintenant d'aventure à la Robinson, mais bel et bien de préparer vaillamment l'examen de l'école navale. J'achevais mes études médicales l'année même où René y fut admis. Quoique 6 ans de distance entre nous, distance énorme à cet âge, n'eusse jamais permis une véritable intimité d'enfant, nous avions toujours été bons amis, nos demeures étaient voisines et nos mères étroitement liées. Aussi, une des joies de ma carrière avait-elle été de me trouver embarquée sur l'Hercule. J'attendais de grandes choses de ce vrai marin. Vous voyez comme nos espérances devaient être misérablement déçues. Tout le carré avait écouté ce simple récit avec une sympathie profonde. Le lieutenant Briand en exprima au nom de ses camarades ses remerciements au docteur. « Les détails que vous venez de nous donner sur celui que nous perdons, ajouta-t-il, nous rendront sa mémoire plus chère s'il est possible. C'est à vous sans doute, mon pauvre docteur, que va échoir la triste mission de donner à sa mère la terrible nouvelle. Dites-lui bien, quand elle pourra vous entendre, en quelle estime et en quelle affection nous le tenions tous ici. Et sa cousine, dit assez étourdiment des bruyères, pour elle aussi le coup sera affreux. Peut-être était-elle sa fiancée ? Non, répliqua le docteur un peu sèchement. Mademoiselle Hélène Rieux et Caudal n'étaient point fiancées. Nous sommes ici en famille. Pourquoi ne conviendrais-je point que le désir de Madame Caudal avait toujours été de les marier ensemble ? Mais, de même que pour la vocation navale, le vœu de la pauvre mère ne devait point être exaucé, les deux enfants ayant nettement refusé de se prêter à ce projet. Hélène et René étaient frères et sœurs, ou, Pour mieux dire, ils étaient à l'égard l'un de l'autre comme deux frères. Pendant qu'on devisait ainsi au carré des officiers et que le commandant Haraucourt consignait sur le livre de bord les détails de la triste aventure, l'ouragan avait perdu sa force et ne tarda pas à tomber. Une mer démontée succéda aux lames formidables qui avaient fait subir un si rude assaut à l'Hercule. Le changement de bordée s'effectua à l'heure réglementaire. Les hommes de quart prirent le service, tandis que leurs camarades allaient chercher dans les hamacs un repos largement gagné. Toute la nuit, le croiseur roula comme un bouchon de liège sur les eaux clapoteuses. Puis, vers le matin, tout s'apaisa et, quand le soleil parut à l'horizon, il éclaira une mer unie comme un miroir. L'Hercule poursuivait sa course. Bientôt il toucha Lisbonne et put réparer ses avaries. Enfin, il reprit la mer et, en 3 jours, arriva à l'Orient. Il y en avait 15 qu'il avait perdu l'aspirant caudal, mais le lugubre événement était encore frais à toutes les mémoires. Kermadec, en bonne voie de guérison, pouvait déjà, en s'aidant d'une paire de béquilles, se hisser sur le pont. Le docteur Patrice avait le cœur lourd comme du plomb à la pensée de la douloureuse mission qu'il allait remplir auprès de l'infortunée mère de son ami. Par une attention délicate, le commandant avait voulu lui laisser ce soin au lieu d'envoyer de Lisbonne une triste dépêche officielle. Le canot du port venait d'accoster l'Hercule, apportant les lettres impatiemment attendues de tous. Soudain, le commandant parut, le visage rayonnant et, à la main, un papier bleu. « Grande et bonne nouvelle, messieurs, » disait-il. « L'aspirant caudal est sain et sauf. Recueilli en mer par le courrier de la Plata, il se trouve depuis 2 jours à l'Orient en convalescence à l'hôpital. »